Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors autour de moi, eh bien vous les connaissez, Jean-François Mignard, Pierre Larouille, vous connaissez leurs titres de gloire, je ne les rappelle pas, ils sont importants. Nos dames qui d'habitude nous accompagnent sont soit à l'université, soit sur le terrain, à faire un peu de politique, certaines.
Nous sommes esselées.
Voilà, nous sommes esselées, il n'y a plus que les hommes, et puis bon, il y a des jeunes femmes en studio, mais est-ce qu'elles voudront prendre la parole? C'est pas si sûr que ça. Elles auront peur de voir ces vieux crabes autour des micros.
Ah, c'est impressionnant.
Oui, tout à fait.
Vous ne voyez pas à la radio, mais c'est impressionnant.
C'est tout à fait impressionnant. Alors, sujet, bon, ça, les sujets ne vont pas vous étonner. L'agression de l'Ukraine par Poutine et ses conséquences géopolitiques. Et bien sûr, la campagne électorale française ou ce qu'il en reste. Voilà, c'est CVM, ça va mieux. C'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Et c'est tout de suite. Alors, je vais continuer dans la tradition en commençant par une citation dont je demanderai à mes amis ici présents s'ils savent de qui elle est.
Bon, je ne sais pas si je vais revenir à force.
C'est un exercice facile pour moi. Alors, je cite. « La liberté d'expression totale, illimitée pour toute opinion, quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. Par suite, c'est un besoin de l'âme. Car quand l'intelligence est mal à l'aise, l'âme entière est malade. » Fermez les guillemets. Alors, c'est un philosophe. Ah, je précise, c'est une philosophe même.
C'est une. C'est...
Bon, allez.
Bon, allez, il n'y en a pas 50.
On n'est pas au jeu des 1000 euros. Oui. Donc, c'est Simone Veil, bien connu. Alors, j'y ai pensé parce que j'ai reçu.
Il faut préciser que Simone Veil, la philosophe, et pas la politique.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a encore des gens, quand on leur cite Simone Veil.
Qui confondent.
Oui, qui confondent. Bon, tu sais, on peut dire quand même que ça a été deux grandes dames, toutes les deux.
Dans leur registre.
Dans leur registre, absolument. Bien, commençons par le sujet premier, l'agression de l'Ukraine par Poutine. Alors prenez un pays moderne, ouvert, démocratique, a priori, où les habitants n'aspirent qu'à vivre tranquilles, libres et en paix. Prenez son voisin, un immense pays respirant difficilement sous un régime autocratique, où tout est verrouillé, où les inégalités sociales sont énormes, où aucune contestation n'est permise, où les opposants sont emprisonnés ou assassinés. Un pays qui consacre 3,8% de son maigre PIB au budget militaire et où les dirigeants et ses commensaux détournent à leur seul profit des sommes colossales. Voyez le dirigeant de ce dernier pays, formé à l'école du KGB, qui n'est pas reconnu pour son ouverture d'esprit, un vrai dictateur que ni les principes moraux ni l'empathie n'étouffent, qui n'a considération pour la vie humaine, bien il n'en a aucune, vous l'avez compris, pour lequel la souffrance, la mort, la légitimité, le bonheur des peuples, à commencer par le sien, et le droit à vivre libre et en paix ne sont que des mots, et à qui ses proches n'osent même plus vraiment parler de la réalité. Prenez tous ces pays occidentaux baignant dans les délices de la consommation forcenée, enfin pour ceux qui en ont les moyens, on sait qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas de tout le monde, et pour beaucoup d'ailleurs dans une espèce de laisser-aller jouisseur, se refusant à voir que les exactions de leurs voisins dictateurs, qui par ailleurs les méprisent profondément et abhorrent leur liberté et leur régime démocratique, lequel dictateur a déjà annexé des pays entiers, rasé des villes entières, massacré des populations avec parfois des armes à lui vendues par les pays occidentaux à la vision de bisounours et à la cécité coupable. Donc pays occidentaux, disais-je avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, comme disait Pierre Desproges, pays occidentaux se refusant donc à vouloir comprendre que les exactions de cet assassin étatique ne sont pas prêtes de s'arrêter et pourraient même les prendre pour cible. Alors lorsque le dictateur en question envahit son pays voisin, panique à bord, on essaye de se ressaisir, d'appliquer des sanctions financières qui toucheront en priorité une population déjà affaiblie économiquement, mais on continue à payer à ce caïd de banlieue et à la bande mafieuse qui l'entoure sa dîme pétrolière et gazière. on ne va quand même pas se serrer la ceinture d'âme après les restrictions dues au Covid, on a besoin de jouir. Malheureusement, ce type de racaille, car cela en est une, ne connaît qu'une chose, le rapport de force, et en l'occurrence, il a mis la barre tellement haut que l'avenir à court terme de l'Occident et bon nombre de pays en termes économiques, énergétiques et alimentaires est extrêmement soucieux. Jean-François.
Oui, alors, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'un enthousiasme forcené en rapport à l'édito que je viens d'entendre.
Ah ben,
en règle générale, je suis quasiment subjugué par la,
il faut par bien
la,
qu'il y ait...
la luminosité de la pensée de Jacques Lavergne.
Il mais faut là, bien pour le choc des idées fasse jaillir cette sûr, fameuse lumière.
Et heureusement, J'ai envie de dire, le tableau n'est pas si simple que ça, et je crains que cette approche-là, cette description de la situation, conforte le dicton, vous savez, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Voilà. C'est pas de moi, hein, ni de Simone Veil d'ailleurs. L'Ukraine n'est pas le pays des bisounours, là, pour le coup, tel que c'était décrit.
Pensais plutôt aux pays occidentaux, en parlant de bisounours.
Tout à fait, non, hein, mais ce n'est pas non plus. Ce n'est pas non plus cette douce prairie dans laquelle s'ébattaient des gens qui étaient dans le bonheur ou des choses comme ça. L'Ukraine, c'est vrai que c'était un pays qui était un pays proche de nous.
Mais qui essayait d'être démocratique. Nous avons mis quelques siècles.
Bien sûr, complètement. Ouais. Mais je ne critique pas. Et puis, qui serais-je pour critiquer ? Mais bon, pour l'avoir un peu fréquenté aussi, y être allé, il y a de ça fort longtemps, mais être allié aussi avec ces personnes, c'est un pays qui est aussi traversé de tas de tensions qui sont liées à son histoire, qui est une histoire compliquée. Autrement dit, la Russie, ce n'est pas Vladimir Poutine. Hein, voilà. C'est aussi un pays continent complexe, avec qui n'a pas qu'un comportement de voyou, même si je suis comme chaque fois obligé de le rappeler, mais bon, voilà, ça va mieux le disant. Je suis particulièrement choqué, c'est au-delà du terme, de ce qui s'est passé en termes d'invasion de l'Ukraine par la guerre, une opération spéciale, dit Vladimir Vladimirovitch. C'est une guerre qui est faite au peuple ukrainien. C'est aussi une guerre, dans mon point de vue, qui est faite au peuple russe par son dirigeant. Et je suis bien entendu, d'emblée, pour que les choses soient un peu posées, d'où je parle, comme on disait à la glorieuse époque, je pense effectivement qu'il est tout à fait urgent d'accompagner les Ukrainiennes, de leur transmettre des armes, même si ça me défrise de voir que les armes qu'on vend aux Ukrainiens...
Ne vous vantez pas en parlant de dire que ça vous défrise.
C'est vrai que là vraiment je vais un peu loin, mais que ces mêmes armes qu'on va vendre aux Ukrainiens ne sont pas très par les mêmes entreprises qui les ont... Il n'y a pas si longtemps encore... continuer à vendre aux Russes. Voilà. C'est, tout ça est un... Donc, en même temps, me semble-t-il qu'il faut, et c'est nécessaire, s'indigner, voire s'indigner, mais s'engager, c'est-à-dire prendre position, jusqu'où chacun peut le faire. Chacun le fait en fonction de ses moyens, j'ai envie de dire, et modestement, j'essaye d'accompagner ça. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas céder non plus à une simplification qui est souvent l'union sacrée. Quoi. Moi, je viens d'une culture politico-philosophique qui est chaque fois un peu inquiète, perplexe quand elle s'est montée. Voilà, alors, on va aller dans la citation, encore une fois, quand les étendards sont... Voilà. Quand on déplie les étendards, disait Weiss, l'intelligence est dans la trompette. Essayons de ne pas, encore une fois, je l'avais déjà dit, de ne pas raisonner comme des trompettes militaires. Hein, vous savez, la musique militaire. Et essayons de voir un peu là-dedans, à la fois ce qui se passe. Alors, deuxième élément aussi, nous sommes dans une guerre qui s'installe, on ne sait pas trop, voilà, le contexte aujourd'hui, c'est... j'imagine que Vladimirovitch et ses sbires a été un peu étonné du fait que la guerre éclair attendue n'ait pas eu lieu.
Il a d'ailleurs limogé, je crois, deux de ses...
On n'en sait rien, ça. Oui, oui,
il
voilà.
Il semblerait, voilà, on les a assignés en résidence.
On se croit revenu à la grande époque du petit père des peuples, voilà, dans les salons dans lesquels on n'osait pas rentrer. quand le petit père avait des malaises. Et le oui, voilà. Et nous-mêmes commençons, me semble-t-il, à sortir. On a intérêt à sortir de la sidération et de l'indignation, et peut-être, allez, voilà, d'un petit peu de manichéisme pour aller d'un peu dans la complexité des choses, avec derrière une autre question, c'est comment on en sort aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'on va en sortir, vers quelle logique ? On peut en sortir par le bas et par le haut. Arrive-t-on à identifier ce qui pourrait nous permettre d'en sortir un peu par le haut ?
Je crois qu'on ne peut pas savoir comment on peut en sortir. Non, c'est pas nous qui allons en sortir.
On peut y réfléchir.
On peut y réfléchir, mais c'est Poutine qui va en sortir. Et peut-il en sortir aujourd'hui ? Parce que s'il se repliait brutalement aujourd'hui, je pense que là, pour le coup, il va perdre le pouvoir et peut-être autre chose. Donc, il sera tenté d'aller jusqu'au bout. Il a brûlé ses vaisseaux, là.
Oui, mais alors, bon, mais encore une fois, cette guerre n'est pas le produit. Je ne crois pas que ce soit le produit de la folie de l'homme.
Il n'est pas fou, il a une logique.
Oui, bien sûr, mais tous les fous ont des logiques. De toute façon, voilà, non, c'est pas, je pense que c'est. C'est pris dans des stratégies. Il y a bien sûr le tyran qui s'isole et dont on sonde les cœurs et les reins pour savoir ce qu'il pense. Je pense aussi que c'est une vieille tendance qu'il porte, sur laquelle il s'appuie. Moi, quand j'entends les discours, parce que j'ai des quelques échos sur la manière dont ça se parle chez les Russes, voilà, c'est très partagé, et là-dedans, il y a des lignes de fracture qui commencent à apparaître, et Poutine est porteur de toute une conception de la grandeur, du chauvinisme pan-russe, disait Lénine à la grande époque, hein, puisque Lénine est quand même son contre-modèle, voilà. Je pense que ça va plus loin que le délire à Vladimir. Chaque fois, on se fait un peu avoir chaque fois dans ces situations-là. Hein, Saddam Hussein en Irak, Poutine, Hitler en Allemagne, etc., etc. Et quand on prend un peu d'épaisseur hystérique.
Très joli lapsus. Hein.
Joli. Je laisserai Pierre éventuellement réagir là-dessus. C'est souvent un peu plus complexe que ça. Encore une fois, tout en se disant, c'est inadmissible, il ne faut pas que ça passe.
J'entendais ce matin sur France Inter des Russes qui ont été interviewés. Et alors, il semblerait qu'il y ait, mais vous nous le confirmerez, Jean-François, vous qui avez des acquaintances russes,
et oui,
qu'il y ait des lignes de fracture au sein même des familles et aussi en fonction des âges. C'est-à-dire que les plus anciens, qui sont complètement d'ailleurs inféodés à Poutine, ils sont anesthésiés par une propagande totalement mensongère, mais ils sont plus prêts à la croire que les jeunes, et les jeunes, par contre, n'acceptent pas ce type de fonctionnement de leurs aînés. Oui, et au sein des familles, mari, femme, ça peut aussi faire exploser le cocon familial.
Et encore une fois, c'est très différent qu'on soit à Moscou, Saint-Pétersbourg,
voilà,
ou à
ville,
Toula, ou Nijni Novgorod,
c'est pas
pareil.
Mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas en guerre contre les Russes, mais Poutine est en guerre contre nous, et contre nos régimes, et contre notre liberté.
Et ça, je pense contre son propre peuple aussi.
Oui, qui souffre, et c'est pour ça que je disais d'ailleurs que les sanctions vont peut-être plus l'affecter à ce peuple qu'il ne touchera Poutine et ses affidés, enfin au moins pour l'instant. Si le pari c'est de dire que les peuples doivent se soulever pour le liquider, je ne sais pas si c'est un bon calcul.
C'est rarement un bon calcul.
Mais alors, voilà, Pierre va nous faire une magnifique synthèse sur tout ça.
Non, moi je voudrais déjà rappeler que pour ce qui concerne l'Ukraine, on assiste à un bégaiement sémantique. Vous vous souvenez qu'en 1918, je parle sur le contrôle de Jean-François.
Oui, qui était.
Jeune, très jeune.
des questions similaires et des réactions et sémantiques et d'organisation s'en sont suivies avec le mouvement magnoviste.
Bien sûr.
Qui, si on se souvient des propos de Bakhno, et qu'on écoute Zelensky aujourd'hui et l'appel à la résistance du peuple, c'est copie conforme. On a l'impression que c'est vraiment copie conforme. Le deuxième bégaiement, c'est que après avoir aidé les Soviets et après que ça ait donné lieu à une autonomie de l'Ukraine, Trotsky, je crois d'ailleurs lui-même, reprend langue avec l'Ukraine en les traitant d'antisémites.
Et ce qui n'était pas complètement faux au demeurant, puisque...
En 40, mais...
Oui.
Pour ce qui concerne Macno, c'est plus...
Le mouvement macnoviste n'est pas représentatif de l'ensemble de ce qui traversait l'Ukraine à l'époque.
Puisque vous êtes lancé dans l'histoire, vous pourriez rappeler un peu quel était ce mouvement et ses fondamentaux.
C'est toute la tendance, disons... anarchiste pour faciliter,
c'est ça qui est plus complexe.
Avec le lien avec les marraines de Kronstadt, etc. Voilà. Ça rappellera des souvenirs à certains. Donc en tout cas, on a ce bégaiement sémantique. Il faut toujours se méfier quand des choses comme ça reviennent régulièrement dans l'histoire.
L'histoire bégaye.
Et peut-être, c'est pas sur la place publique, j'entends ci et là des gens bien informés me dire d'ailleurs... que c'est sur ces bases que les Américains avaient prévu la résistance de l'Ukraine quand Poutine a attaqué, et que d'une certaine manière, ils en ont voulu à Zelensky, qui n'a pas cru qu'il allait attaquer si tôt, et que donc la préparation a pris du retard. Et voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il semble que ce fut l'enjeu des premiers jours de cette guerre, et que maintenant, les choses se mettent en place, et sans doute avec des aides diverses, pour que la résistance s'organise sous forme de guérilla.
Ça risque d'être un peu tard, parce qu'on livre des armements qui sont plus ou moins sophistiqués, dont il faut savoir se servir, c'est quand même compliqué.
Oui, je crois qu'il y a peut-être des instructeurs, mais bon,
et des facilitateurs.
Voilà. Donc ça, c'est... Je voulais revenir sur ce bégaiement sémantique qui est toujours utile. Il y a une deuxième chose, je crois, après m'avoir... Je m'en excuse, je vais m'être absenté de votre belle émission, Jacques Lavergne, pendant quelques jours.
Nous étions désespérés.
J'étais en cette belle ville de Marseille en direct avec vous, et je me souviens qu'on avait abordé le problème de l'énergie.
Oui.
Et là, c'était avant que Poutine attaque. Hein, parce qu'il avait déjà attaqué sur l'énergie. Et nous étions
Il avait déjà attaqué sur l'Ukraine aussi, hein, je veux dire le Donbass, voilà.
Oui, mais, là je parle vraiment, il n'y avait pas de déplacement physique militaire, mais il y avait un déplacement stratégique très important sur le gaz, avec le fait qu'il ait bridé à un moment donné les pipes et qu'il y ait 25% de production qui ont fait en moins, qui ont fait gonfler les prix très très rapidement et qui ont mis en péril tous les prospectivistes occidentaux, avec des coûts extrêmement importants qui sont encore sous la table. Je l'avais dit il y a un mois, je le redis, on va découvrir dans les mois qui viennent l'ampleur des dégâts. La troisième chose au travers de ce conflit, alors je crois que Fukuyama s'est trompé, c'est pas la fin de l'histoire. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est la fin de la démocratie ? Parce qu'en fait, s'il y a un combat que mène Poutine, et d'une certaine manière qui quand même ressemble aux Russes, mais pas qu'aux Russes, c'est pas un hasard s'ils sont spécialisés dans le jeu d'échecs, pour avoir fait une thèse en théorie des jeux. Ils sont très amoureux de cette manière de voir le monde, qui fait qu'on a les mêmes pions, les mêmes outils pour jouer, on se bagarre et on partage à la fin. Il n'y a pas de négociation... Il n'y a pas d'alliance. On n'est pas à la démocrate. Et c'est ce qu'il fait, là. C'est-à-dire, il frappe et il discute après. On a beaucoup de mal, nous qui avons inventé une sorte de multilatéralisme, des jeux à trois ou à quatre, etc. On a du mal à voir qu'en réalité, ce qui se passe là est une recomposition du monde dans un jeu à deux et un retour au jeu d'échecs. Parce que nous sommes...
À deux ou peut-être un peu plus, parce qu'il y a quand même la Chine en arrière-plan, dont on aurait pu parler, mais dont on parlera un jour prochain.
On rentre dans les jeux paradoxaux, les jeux à trois ou quatre.
Je considère justement que ce jeu à trois ou quatre est peut-être un jeu à deux. C'est-à-dire qu'il y a réellement deux blocs qui s'affrontent.
Tout à fait.
Et c'est en ça qu'on a quand même réussi à faire une alliance formidable, même si elle est implicite et même si la répartition des gains entre les trois, Chine, Iran, Russie, est loin d'être écrit, il y a en tout cas un bloc qui se forme. Et il faut quand même rappeler que tout ça part de la Syrie et du refus d'Obama d'aller derrière François Hollande refuser la ligne rouge. Poutine a vu notre faiblesse. Derrière, il en a déduit qu'il pouvait de nouveau revenir à sa vision à lui du monde, qui est une partition en deux blocs qui s'affrontent. Et ça, je crois qu'on n'a pas, fini de voir toutes les conséquences stratégiques, géostratégiques, économiques et sociales de la chose qui est en train de se produire.
Ce qui est certain, c'est que le monde va être profondément bouleversé pendant des mois et certainement des années, que cette guerre va durer et que cette fameuse énergie dont parlait Pierre va nous manquer d'une façon ou d'une autre, et ça va se traduire dans la vie quotidienne alors des Européens, mais pas que des Européens non plus. N'oublions pas l'Afrique, n'oublions pas l'Amérique du Sud, qui dépend aussi de...
Je voudrais, si, Jean-François Samalon, je fais un Pierre. Commentaire, mais qui est sous la forme vraiment banale. Il semble que des responsables français, un peu troublés par les problèmes de cybersécurité en liaison avec la Russie, aient fait des tests pour savoir si on pouvait prendre la main sur les centrales hydroélectriques et l'ensemble des sources énergétiques que nous déployons en France. Et il semblerait que les résultats, c'est que c'est un peu compliqué sur l'hydroélectricité. En revanche, pour ce qui concerne le photovoltaïque et les éoliennes, je crois que des hackers moyens se sont emparés des centrales en 24 heures.
Il y a, je crois, un précédent en Allemagne, puisque Absolument. Ça a dérapé très sérieusement en Allemagne.
Voilà. Donc, il faut savoir que dans les questions qui vont se poser, y compris régionalement, d'ailleurs, dans les territoires, les questions de cybersécurité sur les nouvelles formes d'énergie vont se poser de manière cruciale.
Il y a aussi l'espace. On a vu ce qui s'est passé quand Poutine, et c'était peut-être là un de ces signaux faibles dont vous êtes amateur, Pierre, quand il a détruit un de leurs satellites. Et il y a un petit chantage qui se fait au niveau de la Station Spatiale Internationale en disant on ne va plus jouer notre rôle, il va finir par s'écraser et les gens qui sont dedans vont mourir avec.
Et ceux qui sont dessous aussi, d'ailleurs. Mais
oui, ça dépend où ça tombe.
Voilà. Oui, sur deux choses dans la foulée de l'intervention de Pierre Larroux, la question de la bipolarité, c'est bien ça c'est bien par rapport à ça que je suis intervenu tout à l'heure. Hein, je pense qu'on a tout intérêt à jouer plutôt qu'à des jeux à deux, d'affrontement à des jeux qui sont des jeux paradoxaux, c'est-à-dire c'est comme quand les gamins jouaient à poule, renard, vipère. Voilà, c'est quand on est à 3, voire à 4, voire à 5, et où et qui ouvre l'espace de négociation. Hein, parce que quand on joue à 2, l'espace de négociation, il est limité à l'affrontement. Dès qu'on joue à 3, hein, on n'est plus dans une ligne, on est dans un triangle. Je ne voudrais pas faire de la théorie de bazar là-dessus, mais ça veut dire qu'on crée des espaces qui sont des espaces de négociation, qui sont des espaces de vie, de démocratie, de socialisation des conflits ou des choses comme ça. Et c'est donc pour ça que je suis toujours, moi, assez attentif au fait de ne pas se faire embarquer dans cette espèce d'affrontement comme ça, les deux camps. Quoi, on voit bien comme chaque fois on est renvoyé à choisir entre l'empire du mal et l'empire du bien, la démocratie contre la dictature, etc. C'est encore une fois, voilà, même s'il faut savoir, il ne faut pas dire tout se vaut, la question elle n'est pas là. La question, elle est comment ça se joue, dans quel registre et comment ça se fait.
Jean-François, un mot, si tu me le permets, sur ce sujet-là. Justement, après la guerre, John von Neumann, qui était le grand théoricien des jeux, est allé discuter à Moscou au début de la guerre froide et expliquer que justement, il fallait dépasser le jeu à deux, le jeu d'échecs, pour lequel d'ailleurs il avait inventé une solution qui s'appelle le Minimax. Et ça a été un niet, c'est le cas de dire, catégorique. Alors la théorie des jeux, ça doit plaire d'ailleurs aux gens qui savent ce que ça veut dire diviser pour régner, puisque vous savez que nous avons à Toulouse, pour faire un peu l'actualité, une grande école autour du prix Nobel Jean Tirole, qui se sert beaucoup de la théorie des jeux, et ils viennent de l'appliquer, puisque diviser pour régner, on a fait donc un grand établissement à Toulouse qui va permettre que surtout il n'y ait pas un grand bloc entre l'université et ces grands organismes. Je ne sais pas si tout ça est favorable à l'université française et à sa recherche.
Monsieur Gentilhomme, certainement, moins sur son prestige. Et la deuxième des choses...
on est d'accord.
C'était sur la question de « on va souffrir ». Et c'est vrai qu'on va souffrir. On commence à souffrir en passant à la pompe. Et, et largement au-delà, certainement.
Il y a l'alimentaire aussi, il n'y a pas
que
la pompe.
Oui, c'est pour ça que je dis à la pompe, je veux dire chez le boulanger, voilà, c'est, rassurez-vous, d'après mes informations, il souffre déjà à Moscou et à Saint-Pétersbourg, voilà, et sans commune mesure, mais c'est vraiment pas une raison pour... Mais on va souffrir. Alors, oui, bien sûr qu'on va souffrir, et on va souffrir de toute façon, et là, il y a un enjeu, c'est est-ce que... Alors, une lueur d'optimisme, tiens, de délire. Est-ce que on va être confronté, c'est la deuxième fois qu'on est confronté à un monde d'après, un monde d'avant. Successivement, là, on sort de la pandémie, bam, là, on a pris un truc sur le coin de la tête. Et on s'est dit, bon, il y a des choses pas possibles, quoi. Il va falloir s'en sortir. C'est l'idée d'en sortir par le haut ou par le bas que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on va en sortir dans le monde d'après relooké ou est-ce qu'on va en sortir dans autre chose ? Voilà. Je pense qu'on est confronté à la même question là. Hein. C'est on va souffrir. C'est pas Jacques Lavergne que j'apprendrai que nous allons souffrir économiquement, écologiquement et que si on continue dans la lancée et à sucer comme des bêtes sur les énergies fossiles, je disais ça. C'est une vision purement économique. Je rassure de suite Jacques Lavergne que je vois tomber un pamoison. On va souffrir, effectivement. Comment va-t-on sortir de ce qu'on est en train de payer? C'est notre addiction au pétrole, notre addiction au gaz. Et Vladimir Vladimirovitch a bien compris ça dans la série des échecs. Et il s'y joue. Je veux dire, il utilise la diagonale du fou avec l'énergie de ce point de vue-là, si on fit la métaphore des comment on en sort? Est-ce qu'on en sort en se disant qu'on va remettre la main sur le pétrole, l'énergie et tout, de manière à pouvoir à remettre plein nos réservoirs, nos entreprises ou des choses comme ça? Ou alors est-ce qu'on le fait autrement? C'est toujours l'éternelle question de la crise. C'est cette crise-là. Qu'est-ce qu'on en fabrique?
D'ailleurs, Jean-François, dans cette ligne... C'est vrai qu'on parle évidemment du gaz, de l'énergie, on parle évidemment de l'alimentaire. Il n'y a pas que ça en Ukraine. Hein. Il y a du fer, il y a du lithium.
Bien
aussi,
sûr. Hein. C'est un pays extrêmement intéressant.
Voilà, il y a des métaux rares un peu dont on a...
Il n'a pas échappé que, sans doute, que aussi bien au Mali, avec l'intervention...
Du groupe Wagner.
Du groupe Wagner et en Ukraine, nous, on est renvoyé instantanément à la question du nucléaire, dont je voudrais... dire quand même que là aussi, ça va être très intéressant de voir dans les inconscients collectifs ce qui se passe, parce que nous sommes là sur un problème de souveraineté, mais qui instantanément pose la question simultanée, c'est que quand on entend le nucléaire,
oui,
on entend l'énergie et on entend la guerre.
Le civil et le
militaire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs.
Tout à fait.
Tchernobyl
est débranché. Hein.
Nous allons être confrontés, je crois l'avoir dit il y a un mois, je vais le répéter, nous allons être confrontés à la décision du président de la République. On va penser que c'est Emmanuel Macron, que puisqu'il va construire des nouveaux EPR, il va falloir aller chercher les 150 milliards nécessaires pour les produits, pour les fabriquer... Et que ces 150 milliards, en dehors du livret A, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les trouver. Et pourquoi je fais le lien dans tout ça? Parce que c'est très important de savoir subjectivement comment les gens vont entendre le mot nucléaire. Parce que mon pari, c'est qu'évidemment, ils vont dire oui à un référendum pour utiliser l'épargne des Français pour la souveraineté énergétique. La question, c'est qu'est-ce qui se passerait si la décision collective des Français était... Oui, faites-le, mais après la décision individuelle de quelques Français serait « mais je retire mon épargne du livret A ». Alors j'ai eu l'impression que personne pour l'instant n'abordait cette question, mais peut-être que dans les mois qui viennent, elle va être amusante.
Alors ça veut dire qu'on a déjà un peu ouvert
à observer.
Voilà, le volet français, de notre émission. Pour rebondir sur ce que dit Jean-François Mignard, c'est peut-être l'occasion de commencer à penser à notre environnement et à l'écologie, parce qu'on sait que ces énergies, il faut impérativement qu'on s'en débarrasse. Alors c'est un avertissement de plus. Est-ce qu'on va enfin le prendre en compte et se mettre à réfléchir sérieusement? Ce qui rebondit sur ce qu'a dit Pierre.
Juste là-dessus, oui. Mais juste un détail. Contrairement à ce que souvent on peut penser, là, la société russe, on va le dire comme ça, c'est un concept mou, hein, est très très sensible à cette question-là. Hein, paradoxalement, elle a une espèce de représentation d'une société complètement figée, assise sur ses énergies fossiles ou des choses comme ça. C'est vraiment un débat qui irrigue pour des raisons qui sont des raisons de lucidité politique et de culture, y compris de la Russie. Autrement dit, les Russes sont très très conscients de ces questions-là. Hein. Ils sont pas du tout en dehors de ces préoccupations.
Au moins les Russes des villes, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sociétés en Russie.
Oui.
Alors est-ce que c'est une réflexion qui est transsociétée?
Je pense qu'il y a une dimension culturelle, y compris, qui fait que, y compris, alors le Russe la campagne est très sensible à ce genre de choses-là aussi.
Allez, je vous propose de passer à la campagne électorale française. Oui, Pierre.
Jacques, si vous le permettez, parce qu'effectivement, on a quand même des exemples de gens qui étaient assis sur une spécialisation forte. On peut voir Philippe Maurice, le cigarettier, qui génère ensuite General Foods, et très loin donc de la question du tabac. On peut voir comment les Émirats arabes, très axés aussi sur le pétrole, sont en train de produire l'hydrogène vert, qu'ils vont nous vendre très prochainement, et qui donc pourtant est une source qui est normalement anti-pétrole. Donc il y a là dans l'après, pour faire le lien,
on fera
des
une émission.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est ça un peu l'idée. C'est regardons avec les lunettes de demain ce qui est en train. Il y a des gens qui sont en train de le faire, ça, je pense.
Oui, voilà. Oui.
On fera une émission spéciale sur les énergies, couplée à notre émission Arcania Environnement. Campagne électorale française. Alors, vous l'avez dit, hein, on ne peut même plus parier, rien ne va plus, les jeux sont faits. Le président Macron, candidat à sa réélection, sera reconduit dans ses fonctions, sauf accident. Une fusée poutinienne qui tombe sur l'Élysée, évidemment, ce sera difficile. La seule inconnue demeure peut-être le taux d'abstention. Et une certitude qui est nourrie par plusieurs constatations, plusieurs éléments. D'abord, il a toujours existé une prime aux candidats sortants. Macron est président pour 6 mois, il dirige l'Europe. Alors, cela lui donne une visibilité, une crédibilité que n'ont pas les autres candidats. Dans un contexte de guerre, le président a beau jeu de se placer au-dessus du jeu et il ne s'en prive pas. Puis il y a cette vieille maxime qui veut qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois, même si notre borgne est myope et qu'il louche. Il n'en reste pas moins qu'il est roi. Autrement dit, au vu des divisions, voire de la médiocrité politique, sinon intellectuelle, de ses challengers, il a un boulevard devant lui. Celui qui suscite donc des réticences et parfois même de la haine contre lui, celui qui dirige le pays comme il le ferait d'une entreprise, celui que des journalistes, on en avait parlé ici, avertis, écrivant un livre sur cet homme, et ils avaient donné comme titre à cet ouvrage « Le traître et le néant ». Alors, écartons le traître, mais pensons surtout au néant, puisqu'il visait le néant de sa pensée. C'était un portrait sans concession de celui qui sera vraisemblablement notre prochain président de la République, le tout au terme d'une campagne électorale qui n'en sera pas une. Campagne au cours de laquelle des troisièmes couteaux s'invectiveront stérilement au cours de débats n'intéressant que leurs sectateurs. Avec quand même présente dans beaucoup d'esprits les prochaines élections qui suivront immédiatement la présidentielle, c'est-à-dire les législatives. Et là, il est bien possible que les choses soient moins claires, moins faciles, moins triomphantes pour le mouvement assez gazeux d'Emmanuel Macron. Et peut-être que le match retour sera beaucoup plus passionnant que le match aller. Et juste, vous savez, j'adore les citations. Nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite à gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. Vous avez bien sûr reconnu Pierre Desproges. Pierre, sur cette question.
Pas Desproges.
Pas sur Desproges. Hein. Non, pas Pierre Desproges, on regrette, hein, mais bon. Hélas. Mais on a Pierre Larouze qui est déjà énorme.
Ah, on se console avec.
Pour sautiller.
Oui.
Non, on n'a pas dit le droit à gauche, pour sautiller.
Absolument, Pierre. Jean-François.
Mais je ne sais pas, c'est comme d'habitude, le pitch a été tellement bien fait que...
On est
désespérable.
On n'a pas grand-chose à ajouter. Effectivement, je crois que les deux choses un peu fortes que Jacques Lavergne vient de dire, c'est-à-dire l'abstention et le fait que les élections présidentielles ayant été avancées pour raison de pandémie... fait que le décalage législatif est plus important que d'habitude. Et qu'on a considéré longtemps que le peuple français, qui est un peuple politique, donnait toujours une majorité à celui qu'elle venait d'élire. C'est effectivement une question. Parce qu'il y a un décalage très, très profond, semble-t-il, d'après ce que racontent les études, entre le fait qu'il ait reconnu finalement au président actuel que c'est quand même pas le plus mauvais face à la pandémie, face à la guerre, en tout cas.
Et puis alors avec un suite et mal rasé.
Et mal rasé, à la Zelensky.
Vraiment, on vit. Moi j'ai vibré quand
j'ai vu ça. Oui, même plus que ça, on était presque bord de l'érection, hein. C'était extraordinaire.
C'était une élection présidentielle.
Oui, absolument.
Mais en même temps, on a rarement vu un président qui va se faire élire, et sans doute assez brillamment,
Oui, ça reste encore à voir. Hein,
La question, c'est élu, certes, mais comment ?
S'il a 30% de 40% de votants, ça ne fait jamais que 12%, hein, voilà, si je calcule bien.
Oui, c'est un récidiviste de ce point de vue-là, quand même. Juste, je me permets de rappeler, c'est quelqu'un qui a été élu avec une base d'adhésion réelle, c'est-à-dire je vote pour Emmanuel Macron parce que c'est quelqu'un dont je me reconnais dans le programme. Bon, je rêve complètement des élections dans lesquelles les gens sont conscients sur ceux qui votent. Je rappelle que la dernière fois, l'assise électorale était relativement faible et que ça a certainement à voir aussi avec ce qu'il a vécu pendant son premier quinquennat. Je pense que les gens qui ont voté soit par défaut, soit qui n'ont pas voté, certains les a retrouvés dans la rue, hein. Et je suis pas sûr que cette question-là n'est pas une question qui va venir de manière récurrente. Si Macron est élu malgré le reste, à la sortie d'une espèce de gigantesque pantalonnade, je veux dire, qui est indécente, et moi j'aurais quasiment honte. Tout à l'heure, on parlait de démocratie. Excusez-moi, mais si c'est ça la démocratie...
Ça donne raison à M. Poutine et M. Xi en disant « Regardez, votre modèle est à bout de souffle, il ne vaut plus rien, prenez le nôtre. »
C'est pas aussi clair que ça. Par ailleurs, là aussi, les discours, ce serait beaucoup plus... Mais c'est plus malin, c'est plus pervers. Toujours est-il que... Je termine, hein, Pierre, voilà. Là, on a une question, et j'ai cru comprendre. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans les réseaux qui permettent d'en savoir un peu, mais j'ai pas du tout, non, vraiment, réellement. Alors, du moins pas de cela sur la dimension politique, mais je pense que s'il y a certains, il semblerait que ce soit le cas, macronistes un peu conscients, je pense que c'est quelque chose qui doit leur poser un petit peu question, parce que bon, il doit bien y avoir quelques conseillers qui, à partir du moment donné où on a gagné, imaginent que la chose est faite. Ceux qui jouent le coup d'après, on parlait des échecs tout à l'heure, certainement doivent se poser un certain nombre de questions quand même.
Ah, il y en a qui ont anticipé, regardez tous ceux du PS qui ont rejoint Macron.
Et je ne parle pas des législatives là pour le coup, hein. Je parle pour le coup de la réalité du pays et de la manière dont il va vivre la situation.
En fait, je crois que tout est dit avec un certain cynisme, avec la signature de campagne, avec vous.
Oui.
Parce que là, pour le coup, c'est pas la peine d'avoir fait 10 ans de psychanalyse pour comprendre le type de message qui est envoyé et qui est quand même très, très autoritaire et très dictatorial presque. Hein. C'est avec vous, c'est avec moi, quand même, de manière très, très claire. Et on peut penser.
C'est de vous de majesté.
Oui, et on peut penser, je reviens là-dessus, qu'Emmanuel Macron a quand même, d'une certaine manière, un boulevard de légitimité à créer. Avec un référendum sur l'énergie, qu'il gagnerait, et avec un gouvernement d'union, et ce n'est pas le nombre de personnes qui manquent, pour venir dans l'étable se nourrir. Donc il va sans doute tenter effectivement un gouvernement d'union
sacrée.
d'union sacrée, d'une certaine manière, que le contexte va favoriser. En se souvenant que c'est d'ailleurs assez curieux parce que le second, je révèle des choses que tout le monde sait, mais le second mandat de François Mitterrand, un gouvernement virtuel avait été créé qui était un gouvernement d'union. Et son slogan était la France unie. Et finalement, à 7h du matin, il a appelé ceux qui devaient porter ce message-là en leur disant « Ce gouvernement est formidable, mais que voulez-vous ?» J'ai choisi plutôt les miens. Et il a repris les siens.
Ah.
Donc lui ne l'a pas fait.
Dieu y reconnaîtra les nôtres.
Je pense en revanche qu'Emmanuel Macron va le faire et qu'il va profondément transformer son équipe.
On voit déjà les trains dessus, je galopais, ventre à terre.
On va à la soupe, à la gamelle. On y va.
Si ce n'est à la gamelle, du moins au Marocain, semble-t-il.
Oui. Ben là, ils ne sont pas racistes pour le coup. Hein.
Pour le coup.
Vous parliez d'énergie, mais l'énergie, c'est un moyen, ce n'est pas un but. La première question à se poser, c'est de savoir comment comment voulons-nous vivre? Parce que l'énergie, bon, ça dépendra un peu du choix de société que nous déciderons de prendre. Autrement dit, est-ce qu'on va privilégier la sobriété? Et après, comment fera-t-on pour nous débrouiller de cette sobriété?
Et il me semble que par rapport à ça, on touche à une autre question qui est que ça demande du débat. Hein, ça a été évoqué.
Tout à fait.
Et il me semble qu'on est à la recherche. Les politiques, Macron et son équipe, ou les autres par ailleurs, hein, je veux dire, me semble-t-il, sont à la recherche d'une martingale introuvable qui est complètement. Qui joue les coups sur un jeu qui est un jeu qui n'est plus de mise. Si c'est la question du débat, ce qu'on peut bien mesurer aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'incapacité d'organiser le débat, qu'il soit formellement structuré sur une base qui est une base électorale. On voit la pantalonnade, hein, confère à la pantalonnade précédemment évoquée. Soit quand on s'engage dans des débats de société, où on voit des débats de société, rappelons-nous que nous avons eu des grands débats qui ont tourné au one-man show, soit au one-man show, soit à l'enterrement de première classe, hein, en espérant, j'imagine, pour les gens qui voulaient l'enterrer, que l'actualité amène les choses suffisamment importantes pour qu'on ne parle plus de choses dans lesquelles les gens se sont sincèrement engagés. Il n'y a plus aujourd'hui, me semble-t-il, d'espace de débat. On parlait tout à l'heure de démocratie. Il y a aujourd'hui pas d'espace en tant que tel. Les élections n'en sont plus un. Et nous avons les gens qui sont à la manœuvre ou qui ont des responsabilités pour, entre guillemets, accompagner le fonctionnement politique, sont dans l'incapacité de faire ce genre de choses.
Est-ce qu'on sait encore débattre aujourd'hui? On a l'impression de monologues parallèles, notamment si on regarde les réseaux sociaux, de gens braqués sur leur position et qui ne réfléchissent pas du tout à la pertinence de ces positions, oui, à la pertinence des autres positions.
Bien sûr, alors je veux faire plaisir à Pierre, mais je pense...
On peut lui faire plaisir, oui, il a bien travaillé.
Voilà, puis comme il nous est revenu, oui. Et que nous sentons moins orphelins, la question du débat, c'est la question de la mise en forme des rapports interindividuels, hein, c'est-à-dire comment peut-on arriver à faire société, à sortir de son quant à soi et de son, entre guillemets, individualisme, qui veut dire, en gros, si ce n'est pas 100% de ce que je pense, hein, c'est rien. Hein, voilà. Et ça, qui est une donnée, moi, me semble-t-il, anthropologique, irréversible, je ne pense pas qu'on revienne à l'époque qui est l'époque dans laquelle les cadres présupposés transmis faisaient qu'on s'y coulait à l'intérieur en admettant qu'une partie des choses qu'on avait envie de faire ou qu'on avait envie de vivre n'était pas prise en compte.
Ça s'appelle la tolérance un peu, non?
Ouais, alors voilà, on va... Mais cette affaire-là est un défi terrible, me semble-t-il, qui nous attend sur comment... Alors, pourquoi toujours pareil? Parce que le conflit, quand il n'est pas socialisé, ça produit une chose qu'on connaît bien, c'est la violence.
Pierre. Oui, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la double émotion liée au nucléaire, hein, entre l'arme et l'énergie. En fait, ce à quoi on va être confronté, c'est-à-dire que je crois qu'on est trop intelligent en essayant de penser qu'il va y avoir ce débat. Je crois que les gens sont fracturés entre ce qu'on pourrait appeler deux désirs, qui serait l'ambition, notamment l'ambition climatique, et de l'autre côté, la protection. Dans ces cas-là, on sait qu'en règle générale, c'est la protection et la demande de protection qui l'emporte. Mais Jacques Lavergne a raison, c'est qu'il va y avoir en back-office la question d'être moins consommateur. Mais ce problème, il va être réglé. Il va être réglé d'une manière très très violente par la crise et par la dette.
Exactement.
La sobriété va nous être imposée pour le coup.
Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas anticipé et qu'on ne soit pas posé ces questions avant, parce qu'on subit un choc et on est obligé de réagir face à un choc, mais on n'a pas agi, on réagit.
C'est souvent comme ça que ça se passe.
Mais du coup, il y aura le discours écologique sera en fait le discours de la perte de pouvoir d'achat et de la perte de potentialité.
La fameuse écologie punitive qui fait tant peur.
Oui, qui ne veut même pas de l'écologie, ça sera simplement le fait que les comptes, que le quoi qu'il en coûte et les mesures qu'on prend actuellement. Puisqu'on parle de la présidentielle quand même depuis hier, quoi qu'on pense, peu importe, mais que un président ou son gouvernement, peu importe, à un mois de la présidentielle, parle du statut d'autonomie de la Corse, c'est quand même incroyable. C'est pas un sujet, c'est pas comme dire j'augmente de 10%, je baisse de 10% mes taxes sur l'essence. Ça, c'est la mesure de gestion courante. L'autonomie de la Corse, c'est quand même un problème extrêmement important.
On éteint les incendies quand ils démarrent. Ça veut dire qu'on est dans la...
Oui, mais enfin là,
l'incendie est
pour le coup,
on emploie des moyens. Alors, tiens, je fais une incidente et vous allez peut-être m'expliquer quelque chose que je n'ai pas compris. Ce qui est arrivé à Ivan Colonna montre bien d'ailleurs que nos prisons ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a plus ni les moyens matériels ni le personnel. Ce qui lui est arrivé est odieux et on ne peut que le condamner. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on voit tous ces jeunes dans la rue qui manifestent parce que Ivan Colonna, d'où il vient Ivan Colonna, c'est quand même pas un innocent emprisonné.
Non.
C'est un homme qui, avec ses petits camarades, ont tué de sang-froid, lâchement, par derrière d'ailleurs, parce qu'ils ont mis une balle dans la tête par derrière, un homme qui allait au cinéma ou au théâtre, je ne sais plus.
On l'aurait mis par avant, vu la situation, c'était tout aussi lâche.
Mais bon, moi je...
C'est il est au cinéma, il est au cinéma.
Il allait au cinéma, oui, avec son épouse, tranquillement, voilà, dans la rue, comme vous, comme moi. C'est quand même pas rien. L'image que l'on donne aujourd'hui d'Ivan Colonna, finalement, c'est un homme qui est victime d'une injustice, alors que c'est un assassin qui est assassiné dans les conditions les plus lâches qui soient. Personne ne le dit. Pourquoi ? Et les jeunes qui manifestent, d'ailleurs, étaient peut-être même pas nés pour certains au moment des faits. Expliquez-moi ça un peu.
Oui, parce que je peux le comprendre, ça. C'est parce que je pense que Bien sûr, Ivan Colonna a été un assassin, mais aujourd'hui, pour quasiment n'importe qui, sauf un Corse ou un Basque, il serait dehors. Il serait dehors. Juridiquement parlant, il serait dehors. C'est-à-dire qu'il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine. C'est quelqu'un qui ne représente objectivement aucun danger.
Ah, ça, on ne sait pas.
Objectivement, aucun danger. Au regard de l'appréciation qui, en règle générale, est faite de ce genre de choses. Et on a le même problème avec les prisonniers basques aujourd'hui. On a deux prisonniers basques qui ont plus de 70 ans, dont un est dans un état physique absolument impossible, et qui en sont à leur sixième demande de libération conditionnelle, qui normalement auxquels ils ont droit, qui sont des gens qui ne représentent aucun danger dans une société qui s'est relativement pacifiée, hein, c'est ce qui se passe en Corse aussi, et qui, parce que le parquet...
Je ne sais pas si le mot est juste au vu de ce qui vient de se passer.
Ah non, mais moi je vais dire un truc, c'est que s'ils veulent mettre le feu à la Corse, il faut qu'ils continuent effectivement à faire ce qu'ils sont en train de faire depuis... Alors que je dis « ils », c'est l'État français pour le coup. C'est-à-dire à maltraiter... ou à traiter de manière particulière, c'est-à-dire en rajoutant une chose sur le syndrome paranoïaque du territoire, hein, des gens qui sont des gens qu'il faudrait traiter comme les autres. Ivan Colonna est quelqu'un qui a tué, c'est un assassin. Il faut le traiter comme n'importe quel assassin et pas en permanence le renvoyer à un statut qui est un statut de terroriste. Sinon, c'est renvoyer les Corses, effectivement, aux vieux démons qui sont, effectivement, celui du séparatisme violent. On a la même question avec les Basques. Et on a un parquet terroriste qui ne veut pas comprendre qu'il y a... Mais c'est quand même un vieux principe du droit français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on juge les gens dans une situation et à d'autres moments donnés, on prend compte de la réalité. Ivan Colonna aurait passé son temps à mettre les graffitis dans toutes les prisons en disant « Vive la Corse libre », a essayé de casser la gueule à peu près à tous les gardiens de prison.
Ce qui n'a pas été le cas, c'est un détenu modèle.
Exactement. Et à un détenu modèle, on applique les règles qui sont les règles des détenus modèles. Et le risque, de mon point de vue, il est effectivement que ce soit vécu, et je pense que c'est ça la question, et particulièrement par les jeunes Corses, comme quelque chose de l'ordre de l'héroïsation, parce qu'on est en train de fabriquer un martyr.
Ça peut être une explication, je ne sais pas s'ils l'ont...
Je crois qu'il faut être, précis. C'est comme l'histoire de l'énergie. Le problème n'a pas commencé avec l'attentat contre Ivan Colonna. Ça fait mois qu'on semble monter encore sur le problème de ramener ces prisonniers Corse chez eux. Et le refus de l'État français, déjà, était très clair. Ça peut se défendre, d'ailleurs. C'est une discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne commence pas avec le quasi-meurtre. Je ne sais pas si comment il sortira de cette opération. La deuxième, qui est qu'effectivement, les prisons ne sont pas sûres, mais évidemment que le contexte fait que peut-être certains jeunes Corses ont des doutes sur la manière dont s'est produite cette agression.
Ouais, on peut s'interroger.
Étant donné que justement, depuis des mois, l'État ne savait comment sortir de cette question, des gens qui sont un peu paranoïaques peuvent penser que c'était une manière d'en sortir.
Aucun des gouvernements du président et même Macron n'ont rien fait pour la Corse, à part quelques belles
promesses. Le troisième sujet, c'est que là, on est axé sur les violences, les jeunes. Ça dépasse de beaucoup. C'est le problème Colonna est un problème d'étendard.
Oui, voilà.
Mais il y a aujourd'hui le débat, et si d'ailleurs si Darmanin réagit tout de suite avec des mots aussi forts, c'est que le potentiel de crise est beaucoup plus important sur le statut de la Corse et sur leurs revendications de Corse.
C'est pas parce qu'ils ne l'ont pas réglé jusque-là qu'il faut aujourd'hui aller faire ce type d'annonce et de proposition alors qu'il n'a aucun mandat pour le faire et que ça n'a pas été discuté.
Ce qui est pire que tout, c'est le fait de faire changer le statut de Colonna et de deux autres détenus corses, détenus particulièrement surveillés. Sous la pression, autrement dit, ça signe bien le fait qu'il y a une volonté politique à un moment donné qui n'était pas là pour régler cette question. Et encore une fois, pour suivre de très près ce qui se passe aujourd'hui au Pays Basque pour des raisons associatives, on a le même problème. Et on a une jeunesse basque, par exemple, qui... Dans une société pacifiée, dans laquelle l'ETA a rendu les armes, dans laquelle il a fallu que ce soit la société civile qui neutralise les armes qui auraient été rendues par l'ETA, parce que le gouvernement français n'a pas voulu et a même arrêté ces gens qui étaient en train de faire ce genre de choses, on a une société basque qui s'en sort et qui fait preuve de maturité. Et en face de ça, on a des gens qui ne bougent pas. On se met le feu à la maison, quoi.
Bien, c'était une incidente, elle n'était pas prévue au programme, mais je crois que c'est important d'en parler, de clarifier un peu les choses. Beaucoup de gens se posent des questions, et ce qui est en train de se passer mérite quand même que, et on y reviendra je pense, parce que ça me paraît un peu gros quand même, de la part de Darmanin et du gouvernement. L'heure est arrivée de nos dernières rubriques, alors les brèves, alors, moi j'en ai une qui vient de la Cour des comptes qui s'est penchée sur la sécurité des approvisionnements alimentaires. Alors, ça tombe bien, puisque ça va relayer un peu ce que nous avons dit en début d'émission. L'Ukraine, à elle seule, nous dit la Cour des comptes, assure la moitié des ventes mondiales d'huile de tournesol, 18% de celle de maïs, 14% de celle de blé, et les exportations russes, ça donne un peu le tournis quand même, 20% de maïs, 30% pour le blé, 80% pour le tournesol et les tourteaux consommés par les cochons et volailles de l'Union européenne. Donc c'est ces deux pays qui les fournissent. Alors bien sûr, si on part sur les engrais azotés, dont nos agriculteurs farcissent la terre, la montée en flèche du cours du gaz, qui pèse pour 80% dans les coûts de fabrication, n'est pas non plus une bonne nouvelle. Et la Cour des comptes nous dit, c'est quand même curieux, il n'existe pas en France de stratégie nationale formalisée de sécurisation des approvisionnements alimentaires, ni de services consacrés à cette fonction, comme cela existe dans d'autres pays. On peut un peu s'inquiéter pour notre indépendance alimentaire. Renseignement pris dans le Canard enchaîné, vous savez, qui est une de mes sources d'informations que j'aime bien. Pierre, une brève.
Je suis pas sur les longues actuellement.
Il est pas bref. Pierre.
Bon, moi, alors, comment toi une, c'est une histoire de dinde de lait. Qui nous vient de la grotte Mandrin dans la Drôme.
Ah oui, tout à fait. Voilà, oui, cette j'ai suivi dandelée, ça avec intérêt.
Voilà, cette dinde de lait, c'est une dinde de lait d'Homo sapiens qui nous vieillit de quand même d'un petit millénaire. Nous, les Homo sapiens devenus Homo faber et tout ça. Voilà, c'est... Autrement dit, on est beaucoup plus vieux que ce qu'on imaginait. Alors ça déjà, c'est... Mais ce que la chose que je voudrais signaler, c'est que ça nous fait... Et dans la grotte Mandrin, c'est bien ça qu'on a trouvé, ça nous a fait cohabiter avec le fameux homme de Néandertal. Nous qui venions du fin fond de l'Afrique, avec cet homme de Néandertal qui, lui, vivait en Europe et au Proche-Orient, Autrement dit, on s'est mélangé, on a même du croisement et on a même dans notre patrimoine génétique.
On a dans notre patrimoine, je crois, 2% de nos gènes qui viennent de Néandertal.
Exactement. Et tout ça pour dire que, voilà, le mélange des gens qui viennent du sud avec les gens qui viennent du nord.
On le voit venir. C'est une partie de loin, mais on le voit.
C'est une brève que je dédie à un certain nombre de personnes candidats en ce moment aux élections présidentielles.
Avec un Z qui veut dire Zorro, c'est ça?
Comme disait le géant Garcia.
Voilà, bon, le ça va mieux. Alors, le ça va mieux, moi, j'en ai un qui... C'est l'assurance chômage. Vous avez vu que l'assurance chômage redevient excédentaire, nous dit le Figaro économique. Alors, ça fait 13 années quand même consécutives de déficit et le régime semblerait dégager des excédents à la fin de l'année, notamment grâce à l'amélioration de la situation de l'emploi. L'UNEDIC qui gère ce régime prévoit de dégager 2,2 milliards contre une perte de 9,3 milliards en 2021. Bon, c'est bien qu'on soit revenu peut-être à un certain équilibre, voire un bénéfice, mais enfin, il y a quand même beaucoup de passé à éponger. Puis dans les curiosités, je ne sais pas si c'est un ça va mieux, mais ça m'a beaucoup amusé, c'est la réaction de Trump qui a dit... qu'il fallait envoyer bombarder la Russie avec
des avions maquillés.
des avions F-22 américains parés du drapeau chinois. Et Trump a dit comme ça, nous disons que c'est la Chine qui est responsable et nous n'avons rien fait. Et après, ils se battent les uns contre les autres, nous n'aurons plus qu'à nous asseoir et regarder. Enfin, quand on entend ça...
Comme quoi, il y a des solutions faciles. Il ne faut pas compliquer les choses.
Oui, peut-être qu'on est trop compliqué dans nos raisonnements en France et en Europe. Pierre, quelque chose va mieux pour vous? Bon, vous êtes déjà là, donc ça va mieux.
Je le trouve un peu défait, là, non?
Oui.
Ça va.
Pas défaite.
Non, jamais.
Mais moi, en fait, j'ai un ça va mieux qui est en même temps le conseil culturel en forme de question. Moi, je vais suivre Mignard, mais sous forme d'espoir. C'est tellement le bordel que je crois vraiment que ça vaut la peine que le monde de la culture essaie de penser l'après. S'en mêle étroitement, parce que je crois qu'il n'y a qu'eux qui peuvent relancer le débat au bon endroit. Et
j'ai s'y essaye, mais le problème, c'est que dans cette campagne, vous avez remarqué qu'on ne parle pas de deux choses qui sont absolument fondamentales. La culture, qui pourrait effectivement, et j'en suis profondément persuadé, contribuer à nous rapprocher. Et la deuxième chose, c'est le problème environnemental, réchauffement climatique, déplétion des matières premières, etc. C'est les deux problèmes fondamentaux que personne n'aborde.
Oui.
C'est quand même un peu inquiétant, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure quant au sérieux des hommes politiques.
Et c'est assez dramatique quand on sait que ces thématiques-là sont des thématiques qui sont très portées, notamment du côté de la jeunesse.
Oui, voilà, il y a une campagne masquée qui n'a pas eu lieu.
Ce qui laisse imaginer que nous vivons une simili-campagne de vieux.
Oui, ça fait un peu drôle et c'est tout à fait dommageable. Conseil culturel.
Un petit
terminer.
Ça va mieux, moi j'avais.
Ah, pardon.
Oui, voilà, pour une fois. Alors, je l'ai en deux temps, moi. Ça va bien. Là, l'Union européenne vient de déclencher le statut de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. Vous me direz que je fais de l'obsession avec les réfugiés. Voilà. Ça va bien. C'est bien. Et il faut accueillir effectivement les réfugiés ukrainiens
par rapport
à ce qu'ils vivent. Mais ça irait mieux si on faisait la même chose pour tout le monde, pour les Syriens, voilà. Et qu'on continue à le faire. Alors voilà, je ne sais pas si ça va mieux. Peut-être que ça ira mieux. Mais voilà, ça va moins mal que d'habitude.
C'est la dent de sagesse.
Voilà, c'est la dent de sagesse.
Il y a un beau dessin du canard enchaîné cette semaine là-dessus, qui est français, qu'ils accueillent en disant écoutez, on vous accueille avec plaisir, ça va bien. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas arabe, donc c'est parfait.
Il y a quelques hommes politiques français qui ont un peu dérapé là-dessus.
Il semblerait. Conseil culturel, alors Jean-François.
Oui, alors je reste toujours sur la question des gens, des réfugiés, des sans-papiers et tout, très toulousain. À Utopia à Tournefeuille, samedi 19 à 14h30, vous avez un film qui s'appelle La Brigade de Louis-Julien Petit. C'est une journée qui est une journée avec des associations d'accompagnement des gens qui sont des gens sans papier. Vous avez la Ligue des droits de l'homme, Réseau Éducation sans frontières, Médecins du Monde, etc., etc. Il y a un repas à midi et on peut partager le repas avec des familles de gens qui sont sans papier qui vivent à Toulouse. Donc si ça vous dit, c'est à l'Utopia à Tournefeuille. Samedi 19 à 14h30, et juste une dernière chose, deux conseils culturels, un livre que je suis en train de lire, je trouve pas mal, de Santiago Mendieta, de l'excellente revue Gibraltar.
Tout à fait, très très belle revue, j'avais reçu Santiago il y a des années, mais c'est un superbe travail.
Et ce livre s'appelle « L'histoire retrouvée de la guerre d'Espagne » de 1931 à nos jours, et c'est aux éditions Le Papillon Rouge. On y verra toute l'histoire toulousaine et réfugiés espagnols. Et juste encore, je vous vole 2 secondes pour dire le fameux hôpital Varsovie, l'hôpital rouge qui a été créé par les républicains espagnols. Et dont on a parlé de la lutte, il y a de ça quelques émissions. Et ça va mieux. On a viré le directeur de l'hôpital du coin pour le remplacer par quelqu'un d'un peu plus responsable. Ça va mieux à l'hôpital du coin à Toulouse.
Pierre. Un conseil culturel quand même pour passer un petit message par mon ami Arnaud Benedetti et lire son bouquin « Comment sont morts les politiques ». Je pense que ça plaira après la discussion que nous voulons avoir.
Oui, je sais pas. Ça fait écho.
Et pour ma part, sa modestie dut-elle en souffrir ? On va quand même parler de Pierre parce qu'il n'était pas là, mais il travaillait. Nous avons le produit de son travail aujourd'hui, un livre qui s'appelle « Et un jour, il monta les marches jusqu'à demain », donc titre énigmatique à la Pierre Larouille, bien sûr, qui vient de nous être offert. Nous n'avons pas encore lu, mais on ne doute pas qu'il soit excellent. Et on fera une signature de ce livre ici, avec peut-être débat, émission, dans le début du mois de mai, 11 mai, je crois, on a dit. Bon, on le redira.
Le 9, c'est mieux. C'est juste avant le 10 qui est une date symbolique.
C'était la revue spéciale copinage.
Voilà. Non, et puis, il y a 2 autres livres que vous pouvez retrouver. Alors, cela, je pense, c'est UPPR, mais c'est en ligne. Deux livres qui s'appellent l'un « Pandémie, des leçons pour la vie future », toujours de Pierre Larouille, avec la préface d'Arnaud Benedetti dont on parlait à l'instant.
On ne l'arrête plus.
Et un autre qui est un peu la déclinaison, c'est « Terra incognita, explorateur au casanier », Pierre Larouille, toujours avec Benedetti au travail dans la préface et toujours chez UPPR. C'est bien ça, Pierre ?
Oui, oui.
Bon, voilà, il a bien travaillé, on l'excuse de ne pas avoir été là. Et on vous renvoie vers ses livres, et dont notamment le dernier, « Un jour, il monta les marches jusqu'à demain », chez UPPR, mais là, il n'est pas en ligne, il est sur le papier, il est physique.
Pour de vrai.
Voilà, je le tiens en main. Je voulais terminer, mais nous n'avons plus le temps, en vous lisant un poème de Vladimir Mayakovsky qui s'appelle « Notre dette envers l'Ukraine ». Je pense que j'aurai l'occasion de le relire prochainement parce que ce sujet va rester dans nos discussions pendant longtemps. Merci, messieurs. Comme d'habitude, merci, vous fûtes extrêmement brillants.
Vous le fûtes également.
Voilà, c'était « Ça va mieux », une émission de Jacques Lavergne, de Jean-François Mignard, de Pierre Larouille, avec à la réalisation Tiphaine Demaine. Merci Tiphaine. Vous retrouverez le podcast de cette émission avec tous les autres podcasts, bien sûr, sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de « Ça va mieux ». Merci de votre fidélité. Belle journée à tous et à tous.